Bonsoir à tous et à toutes. Vous êtes bien sur Fréquence Paris Pluriel 106.3 FM. Nous réfléchirons ensemble sur les logiques qui poussent nos hommes politiques à prendre des décisions au mépris des experts indépendants et des populations locales. Et pour illustrer nos propos, nous parlerons bien sûr du nucléaire, qui est un vaste sujet, du gaz de schiste. Pour débattre sur ces différents thèmes, j'ai pas mal d'invités des différentes émissions de Fréquence Paris Pluriel. Et d'ailleurs, ils vont se présenter.
Alors, on peut commencer par Raoul Abdalov de l'émission Salle 101 qui s'occupe de science-fiction. On pourrait se demander ce que la science-fiction a à voir avec Cause commune. Et bien, justement, la science-fiction décrit depuis le début, depuis H.G. Wells, c'est-à-dire le 19e siècle, des mondes morts, détruits, bousillés par justement des expériences scientifiques qui ont mal tourné, que ce soit des catastrophes naturelles ou surtout industrielles, pour ne pas les nommer. Et de fait, la SF a produit énormément de littérature qui, avec le temps et avec le recul, s'avère incroyablement vraie. C'est pour ça qu'on parle de littérature d'anticipation. Ça donnait lieu à tout un pan de littérature qui s'appelle le post-apocalyptique. Et on verra que c'est extrêmement sérieux parce que c'est très réaliste, à tel point que ça fait froid dans le dos.
Virginie, peut-être ?
Jungle des luttes, programme tous les troisièmes lundis du mois de 19h à 20h30. La jungle des luttes, c'est le programme du CSPCL, Comité de solidarité avec les peuples du Chiapas en lutte. Et en général, on aborde justement tous ces thèmes là, justement, de ces grands projets inutiles, nuisibles, qui se font au mépris des peuples, des communautés, des gens, des animaux, de la nature, etc., et de la société, de l'équilibre, etc. Donc on a en général la possibilité aussi de parler des apatistes qui, eux, depuis 1994, s'organisent et luttent contre tous les projets gouvernementaux et donc sont la spécificité précisément d'être indépendants et justement de construire l'autonomie. Donc voilà, la jungle des luttes, on peut un peu participer ici là sur toutes ces thématiques en n'ayant pas spécialement de connaissances, on n'est pas des experts. Mais...
Merci Virginie. Patricio, peut-être, tu veux te présenter un petit peu.
Oui. Et Patricio Rivera Millapan, et Chronique Mapuche. Et c'est un programme qui se passe le dernier lundi de chaque mois, et qui parle de notre peuple Mapuche. Voilà.
D'accord. Gianni.
Gianni de Vive la Sociale. Vive la Sociale est une émission qui a lieu le premier et le troisième jeudi du mois. Elle s'occupe des luttes sociales, notamment celles qui ont lieu dans le monde du travail, sur le terrain de l'entreprise, des services publics. Mais évidemment, on essaye d'avoir un regard un peu plus large, parfois au-delà de nos frontières, en profitant de la présence de personnes qu'on connaît qui vivent ailleurs, qui peuvent nous donner des éléments de réflexion sur ce qui se passe ailleurs dans le vaste monde. Et évidemment, on a aussi abordé parfois des questions d'ordre, comment dire, environnemental, sans tabou, comme diraient nos décideurs.
Joël.
Eh bien, Joël, donc, de l'émission Zéro Hebdo, qui est tous les mardis de 20h30 à 21h30, on traite des questions des médias libres et alternatifs. Et aussi l'actu des luttes. Donc l'actu des luttes, c'est du lundi au vendredi de 12h30 à 14h sur cette même antenne. Et là, on traite effectivement de pas mal de questions qui peuvent être aussi sociales, environnementales, voilà, donc avec des invités aussi, voilà.
Alors moi, Agnès, je sais pas ce que je fais là, parce que je me fais des émissions de cinéma. Non, je plaisante. Prise directe, tous les mercredis à 14h. Et effectivement, on relaye beaucoup de documentaires, notamment. S'il y a des fictions intéressantes sur le sujet, why not? Mais franchement, ils ne s'attachent pas trop à faire des choses de cet ordre-là. Donc j'ai bossé un peu sur des choses qui sont visibles sur Internet, et je vous en parlerai.
Oui, donc moi c'est Gilles, donc c'est une émission le vendredi soir de 20h30 à 21h30 sur le chômage, la précarité, la misère, etc. Donc on essaye de réfléchir sur la façon dont les gouvernements, surtout nos gouvernants, font en sorte que le chômage perdure, puisqu'il y avait peut-être des solutions, mais qui n'ont pas été prises depuis 40 ans. Voilà. Donc pour démarrer cette émission, ça va être un débat, puisque, comme tu le disais Virginie, nous ne sommes pas des spécialistes, mais nous sommes des gens convaincus, et puis nous avons aussi nos idées, donc on va les défendre à ce micro. J'aimerais commencer sur une façon générale. D'une façon générale, est-ce que vous considérez quand même que les logiques, les jeux qui sont prises, les jeux politiques et économiques qui sont prises par nos politiques, sont en fait inhérentes à un état d'âme, un état d'esprit plus ou moins de droite ou de gauche? Est-ce qu'on peut faire un distinguo entre droite et gauche dans ce cas-là?
Dans le sens qu'il y a une remarquable continuité entre la gauche et la droite dans la pervicacité avec laquelle ils ont continué à faire des choses sur la tête des gens directement concernés sans demander l'avis de personne. Je crois que l'exemple type est la question du nucléaire. Ça a commencé après la guerre avec les militaires qui voulaient leurs bombes. On leur a donné. Et ensuite, on a installé le nucléaire civil et on a utilisé le nucléaire civil surtout pour éviter qu'on parle du nucléaire militaire et pour faire du combustible pour les militaires. Ça, c'était le point de départ. Je schématise beaucoup. Mais en gros, on a fait tout ça sans demander l'avis de personne. Il n'y a jamais eu une discussion et on nous présente ça comme le consensus français sur le nucléaire. C'est un consensus par la négative, puisque personne n'a jamais demandé l'avis des populations, ni sur le militaire, ni sur le civil, c'est-à-dire sur cette espèce de dissémination de centrales nucléaires sur le sol français qui fait de la France le plus nucléarisé au monde par rapport à son espace et à la population et à la quantité d'énergie électrique produite en pourcentage par ce type d'installation. On est à peu près à 75% de l'énergie, ce qui est un choix précis pour empêcher toute discussion sur l'idée, même sur l'idée d'une sortie nucléaire. Et en réalité, les faits nous montrent comme c'est possible d'arrêter dans un délai très court les centrales. Le Japon nous donne un exemple très clair et très net. La seule question qui se pose est: faudra le faire avant ou après l'accident. Et nos décideurs ont décidé de le faire après l'accident, évidemment.
Merci, Gianni. Qui veut intervenir sur le propos du nucléaire?
Oui, l'accident qui évidemment n'arrivera jamais. Ça, c'est une des choses qu'on entend évidemment le plus régulièrement et qui, pour ma part, me frappe le plus. On a eu l'accident de Three Mile Island, qui venait d'une centrale nucléaire qui était mal faite, mal conçue. On a eu ensuite l'accident de Tchernobyl qui était dû principalement au fait que les communistes étaient incapables, bien sûr, de gérer une centrale nucléaire et que de fait c'était du mauvais matériel, c'était mal fait. Bon, c'était la Russie. Voilà, c'est logique qu'ils aient eu un accident parce que vraiment ils ne savaient pas faire. Oui, l'URSS, pardon, pardonnez-moi, l'URSS. Ouais. Et après Tchernobyl, donc, on a eu récemment Fukushima avec ce que ça implique. Et là, c'était parce que, bon, ce n'était pas vraiment non plus la faute du nucléaire, c'était simplement parce qu'il y avait un gros tsunami. Qui avait suivi, donc bien sûr, le tremblement de terre du mois de mars. Et à chaque fois, donc ça n'était jamais la faute du nucléaire, c'était juste l'environnement qui faisait que, oui, ces accidents pouvaient arriver, mais en France, ça n'est pas possible. Parce que nos centrales nucléaires sont bien conçues, parce qu'elles ne sont pas gérées à la soviétique et qu'elles sont bien faites, et parce que les tsunamis, les tremblements de terre, ça n'arrive pas en France. Ça, c'est le constat qui, effectivement, rejoint ce que tu disais tout à l'heure sur cette espèce de pseudo-consensus qu'on nous impose et qui, en quelque sorte, nous empêche de parler.
On nous a aussi, j'ai entendu une fois à l'Assemblée nationale, que les Français aimaient le chauffage électrique. Je suis désolée, mais je vous signale que dans toutes les chambres de bonne, le gaz est interdit. Et on a forcé les gens à s'électrifier avec des appareils qui bouffent un taux incroyable de mégawatts. Et c'est nous, on aime ça. Mais franchement, des fois, on n'a pas le choix.
Et d'ailleurs, il faut rappeler que les offices à HLM ont équipé leurs logements mal isolés avec des installations électriques.
Oui, c'est vrai.
En collaboration évidemment avec EDF. Oui.
Ceci dit, au niveau des coûts, là, si on parle des logements, au niveau des coûts, maintenant, ils sont tellement assaillis, les logements sociaux, qu'il y a quand même, pour moi, avoir travaillé avec des architectes, là, ceux qui gagnent les concours, c'est quand même ceux qui réussissent à avoir des systèmes énergétiques de haute qualité environnementale. Et donc, du coup, d'avoir des machines à gaz en haut, etc., où tu recycles. Donc, enfin, je pense que ça bouge. Non, mais ce que je veux dire, c'est que ça bouge pour des histoires financières. Pas du tout pour des idées de principe en se disant il faut faire reculer le nucléaire. Et je pense aussi que précisément ce que l'habilité des pouvoirs publics, c'est justement de nous faire peur. C'est-à-dire que l'un des arguments, donc tout à l'heure on parlait du fait que c'était sans risque chez nous parce qu'on est des pros et des experts. Je crois aussi surtout qu'ils insistent sur le fait que pour une indépendance énergétique, ce qui est quand même la base d'un État qui doit assurer quand même un certain nombre de choses, dont l'énergie, je pense que l'important, c'est précisément d'avoir de menacer les gens de « on va être dépendant d'autres pays pour notre énergie ». Donc ça bloque un petit peu, je pense, l'esprit des gens sur « mais qu'est-ce qu'on fait ? Quelles sont les alternatives au nucléaire ?» Enfin, je pense que il faut réfléchir justement à toutes les alternatives.
Ben justement, en termes d'alternatives, moi, j'ai quelqu'un de ma connaissance qui m'a expliqué qu'il avait isolé son appartement. Il n'est pas du tout chez EDF, hein, enfin pour, ni au gaz, ni à l'électricité. Et donc, il a isolé avec de la ouate, donc une espèce de coton qu'on achète en pharmacie, là, enfin, en quantité bien sûr suffisante, hein, qu'il a mis contre son mur, et ça marche. Il est descendu chez son voisin, il a mis à fond sa musique, il avait fait ça pour une pièce. Et ça marche. Et donc, il a fait ça pour toutes les autres pièces. La ouate, et puis il a fait du liège aussi. Donc, c'est un mélange des deux. Alors, évidemment, c'était en grande quantité hein, qu'il en a pris. Et puis, c'est finalement pas si cher que ça. Alors, il y a certainement un coût. Hein, mais c'est beaucoup moins cher. Et donc, ça peut créer des emplois. Ça allait créer des emplois presque... voilà.
Oui, sauf que les assureurs vont se mettre là-dedans. Et s'il y a le feu chez lui, il ne sera pas remboursé. Désolé, mais...
Oui, il y a certainement des... certainement des... bien sûr.
Il y a quand même cette question aussi, je pense qu'on y viendra aussi dans le cours de l'émission, c'est comment aussi les syndicats sont entrés dans la danse aussi sur ça et sur d'autres sur ces autres questions, puisque derrière ça aussi il y a de l'emploi, on est toujours dans cette chose, dichotomie un petit peu de il faut que les gens puissent travailler, mais même là, puisqu'on le voit bien, pendant assez longtemps, la CGT et le Parti communiste étaient vraiment pro-nucléaire. Ils sont peut-être un peu moins aujourd'hui, mais peut-être toujours encore. Donc, on est quand même sur des incohérences assez fortes. Et on peut se demander aussi jusqu'à où on peut accepter ce genre de situation. C'est-à-dire, c'est un peu le chantage... ou à l'emploi, ou à l'environnement. Donc, à un moment aussi, peut-être que les syndicats, certains syndicats vont réfléchir, et c'est un peu la question qu'on peut trouver sur le gaz de schiste aussi, puisque ce midi, on a eu dans l'actu, effectivement, une personne sur le... pas un syndicaliste, hein, mais sur la question du gaz de schiste, et c'est vrai que cette question, on a un peu échangé cette question, et c'est vrai que pour l'instant, à part peut-être le syndicat Sud, qui a un petit peu une réflexion sur ça, une réflexion quand même assez engagée, mais pour les autres syndicats, on n'en est pas encore là. Et là, ça pose vraiment une question, parce que quand on dit aux travailleurs, si vous voulez continuer à vivre, il va falloir continuer à fabriquer du nucléaire ou du gaz ou peut-être du gaz de schiste, parce qu'on retrouvera, je pense, les mêmes questionnements, c'est-à-dire, eh bien voilà, il y a des emplois à créer. Aux États-Unis, il y a effectivement des lobbies sur ces questions-là qui ont prêché que ça créait 600 000 emplois. Mais voilà, effectivement, faut quand même se souvenir que les questionnements et les réponses que cherchent les États, ils vont les chercher effectivement chez Total, chez tous ces gens-là qui ont leurs spécialistes. Et leurs spécialistes, pour eux, c'est il faut aller vers effectivement ces énergies-là. Comme un peu le sous-titre de l'émission l'entend, c'est les projets inutiles et nuisibles. Et là, on est dans ces variables-là. Quoi.
Alors moi, j'ai quand même une question générale à poser à tout le monde. C'est comme on voit que tous les autres pays en dehors de la France sur le nucléaire reculent. Certains même se sont carrément arrêtés. Hein. On a vu qu'après Fukushima, les centrales se sont arrêtées. Certaines sont reprises depuis, hein, bien sûr, mais... que beaucoup de pays comme l'Allemagne, par exemple, ont arrêté leur... Bon, ça va mettre du temps, hein, pour voilà, ça va mettre 25 ans pour le démantèlement, mais bon, il n'y a plus de réacteurs qui fonctionnent, enfin, dans mes souvenirs.
La Suisse également.
La Suisse aussi, voilà. Comment se fait-il que la France, elle, reste sur son quant à soi et avec un bonnet d'âne, en fait, non, je ne veux pas, je continue à faire du nucléaire alors que tout le monde a arrêté.
Parce qu'on vend des centrales à l'étranger.
Ouais, est-ce que c'est qu'un intérêt économique?
Ça rejoint je pense.
Oui, d'accord.
Ça rejoint, à mon sens, ce dont on parlait tout à l'heure sur le fameux consensus. Je pense que le nucléaire, c'est clairement pour moi ni de droite ni de gauche, puisqu'on est dans cette espèce de logique d'indépendance énergétique qui a été tout simplement voulue et prenée par De Gaulle. Et que c'est cet héritage-là qu'on se prend depuis pas mal de temps, mais qui a été bien sûr reconduit.
On n'est pas vraiment indépendant puisqu'on va chercher l'atome au Niger, quoi.
Et c'est bien sûr, on essaye de l'être. C'est ce mythe-là qui fait perdurer, entre autres, dans l'esprit des gens, je pense, la soi-disant nécessité du nucléaire.
D'accord.
Alors pour baisser un peu la consommation du nucléaire, n'achetez pas de climatiseur. Il n'y en a pas besoin en France. Hein. Il fait 36 une journée dans l'année, franchement.
D'accord.
Mais bon, cette histoire d'indépendance est un des nombreux arguments bidons du nucléaire. Parce qu'il n'y a pas d'uranium en France. Donc, ils vont les chercher au Niger. Ils vont les chercher au Kazakhstan,
exactement,
des démocraties, c'est bien connu d'ailleurs, avec des méthodes dont on a beaucoup entendu parler dans les discours sur la France-Afrique, qui perdurent justement autour de l'uranium et de l'exploitation qui se fait des gens qui travaillent autour de l'uranium. Mais moi j'ai l'impression qu'il y a un amoncellement de discours bidons qui sont censés être des arguments sur la question nucléaire. Et je pense qu'il vaudrait la peine de les regarder même rapidement. Par exemple, déjà, la question essentielle. Quand on parle du lobby nucléaire, on parle évidemment des militaires, du monde des ingénieurs des mines, qui décident ce genre de choses, et du lobby du béton, parce que la construction est ce qui fait l'intérêt énorme du nucléaire, comme on peut le voir par exemple avec les constructions autour de l'EPR de Flamanville.
Absolument.
Où il y a eu quelques petits
soucis,
dépassement
choses qui ont été dévoilées.
Oui.
Et ensuite, on nous rebat les oreilles sur la question de l'emploi, mais ça sert à quoi cet emploi? Parce que si c'est de l'emploi pour produire du cancer, des possibilités d'accidents nucléaires, la possibilité de détruire pendant plusieurs siècles des lieux où les gens pourraient habiter et qui seront interdites, comme site de Tchernobyl aujourd'hui, effectivement, ça n'a pas de sens. C'est de la folie.
Oui. En plus, c'est pas tant que ça d'emploi. T'avais pas les chiffres, toi?
J'avais les chiffres, c'est sûr.
Sans compter que le revers de la médaille est que, et tout le monde le sait, que les énergies dites renouvelables produisent beaucoup plus d'emplois, beaucoup plus utiles et beaucoup plus proches. C'est ça aussi un élément important, plus proche de ce qui pourrait être directement concerné par l'utilisation de l'énergie. Donc, plus loin du pouvoir des décideurs, et plus proche du pouvoir de décision des gens directement concernés, qui est aussi un élément qui joue aujourd'hui en faveur du nucléaire, parce que ça sert aussi pour quadriller l'ensemble de la société. Il ne faut pas oublier que le nucléaire marche parce qu'il y a une circulation généralisée de matières radioactives sur le sol français, et jamais les populations concernées sont informées de tout ça. De temps en temps, on a eu ces deux dernières années un peu d'informations là-dessus concernant les trains de déchets nucléaires, surtout parce qu'ils venaient de l'étranger d'ailleurs, et donc on savait, les antinucléaires d'autres pays ont informé certains membres de Sudrail qui ont passé l'information, mais on se borne à parler des questions de déchets. En réalité, ce n'est pas la question des déchets, c'est la question de la totalité des matières radioactives.
Absolument.
Dont, en général, on ne parle pas. Oui. Et dernière chose, l'utilisation que le lobby nucléaire a fait de la question du réchauffement climatique. En utilisant cet argument d'une façon tout à fait artificielle, on a transformé l'énergie nucléaire en saloperie et en énergie poubelle. On nous la vend comme une énergie propre, au point que quand il y a eu le Grenelle de l'environnement, évidemment, on l'a sorti des problèmes d'environnement parce que c'était une énergie propre. Donc, c'était même pas la question, même pas le problème d'en parler.
Merci. Alors, merci, Gianni. Alors, Patricio, toi, tu es chilien.
Oui. Oui.
Ah, une petite pause. Merci, Cyril. Oui.
D'accord. Ouais.
Quand l'homme a débarqué, la terre était bleutée, la terre était bien ronde. Sous son scaphandrier, il a bien observé, regardé à la ronde. Quand l'homme a débarqué, il a fait des relevés, effectué des mesures. L'homme a fait des calculs, des opérations, il n'était pas très sûr. Puis l'homme, au fil du temps, s'est trouvé plus confiant, s'est trouvé du talent. Pour inventer des choses, pour te remettre en cause, il n'a pas mis longtemps. L'homme a dit c'est bien beau, c'est bon, c'est installé, résident pour de bon. Mais l'homme en qualité, l'homme a vu des défauts et vite fait fi du fond. Quand l'homme a débarqué, il avait l'air pressé, c'était son aventure. Qu'il écrivait déjà le crayon mal habile en avant les ratures. Quand l'homme a débarqué, a rapidement tiré des plans sur la comète. S'est projeté dans l'espace, dans le temps plein d'allant, l'homme a fait sa conquête. Quand l'homme est arrivé, des coudes il a joué, il lui fallait de la place. Pour bâtir son empire, a vu les choses en grand, ériger des palaces. Quand l'homme a débarqué, quand il a posé le pied chaussé de bottes en fer, il a marqué le sol à jamais d'une empreinte, à jamais dans la terre. Dans la chaîne de la vie, à mon avis, l'homme est un boulet, et qui l'abolit, et qui le balaie, a raison en fait, pensait un virus dans une éprouvette. Quand l'homme a débarqué, a vu des animaux qu'il a trouvés si drôles, qu'il a créé des eaux pour mieux les observer, il les a mis en geôle. Quand l'homme a débarqué, il s'est senti tout de suite amoureux de la nature. Il a demandé sa main, a violé son destin, a forcé son allure. Quand l'homme a débarqué, tout est devenu pesant car il voulait tout le temps avoir raison de tout, avoir raison tout le temps, être maître du temps. S'est autoproclamé le plus intelligent de tous les mammifères. Quand l'homme a déboulé, il a surtout pensé qu'il pouvait tout mieux faire. Quand l'homme a débarqué, il a dit c'est ma terre, il a dit c'est ma mère. Il a tracé des lignes, il a fait des frontières, il a même fait la guerre. Et puis marquer aussi son territoire sur des océans de tout poil. Le chibre entre les mains s'est lâché un bon coup, a pissé son gasoil. Quand l'homme a débarqué, il a crié moi je, il a dicté toi tu. Quand il est arrivé, les choses ont mal tourné, c'était du jamais vu. Quand l'homme a déboulé, il y avait dans son regard quelque chose d'inquiétant. Quand l'homme a débarqué, il y a eu comme un froid, il y a eu comme un blanc. Sur le chemin du destin, il est un peu fierot dans sa petite auto qui navigue à vue. T'as l'air tout perdu, je t'enverrai bien paître, pensait le GPS en regardant son maître.
Pour autant de choisir un GPS, car plusieurs éléments sont à prendre en compte. D'abord, l'appareil lui-même, sa taille, son poids, sa vitesse de calcul. Ensuite, la cartographie nationale, européenne ou internationale. L'interface graphique, qui doit être lisible et pratique. Et enfin, la prise en compte ou non, en temps réel, des bouchons. Il y a les GPS amovibles, dont les prix sont en chute libre. Mais si vous êtes allergique aux ventouses collées sur les pare-brises, eh bien plutôt qu'un GPS amovible, vous pouvez envisager l'achat d'un système à intégrer directement dans le tableau de bord, si votre véhicule n'en possède pas déjà un. Les voitures récentes permettent en effet d'installer des GPS à grand écran à la norme double DIN. Longtemps très cher, ces équipements devraient voir leur prix baisser prochainement, notamment avec la sortie d'un modèle signé Pioneer qui risque de bouleverser le marché à moins de 1 500 €, ce qui n'est pas donné mais ce qui est quand même beaucoup moins cher que ce que l'on trouve aujourd'hui. Avantage d'un système intégré, eh bien en plus de la navigation par satellite, cela remplace avantageusement votre autoradio. Certains appareils font également office de lecteur de DVD, à ne pas utiliser en roulant évidemment, et même d'ampli sans fil pour le téléphone portable. En revanche, les systèmes intégrés sont plus compliqués à mettre à jour car il faut attendre les DVD annuels de cartographie. Mais cerise sur le gâteau, sur ce genre d'appareil, on peut même connecter une petite caméra de recul pour faire des créneaux sans risque d'emboutir la voiture qui se trouve derrière.
Info 13h30, le journal Alexis Fricker.
32 militants anti-OGM sont jugés depuis ce matin devant le tribunal correctionnel d'Orléans. En août dernier, ils avaient détruit un champ de maïs de 3...
Et oui, c'était une petite chanson gag faite par des copains qui étaient donc à Notre-Dame-des-Landes qui luttaient contre l'implantation d'un aéroport gigantesque et inutile puisqu'il y en a un deuxième qui fonctionne mais qui a 75% de sa capacité. Donc arrêtons les conneries, merci messieurs. Donc on reprend cette émission avec toute l'équipe des super animateurs des fréquences parapolaires. J'avais oublié de citer bien sûr l'incroyable Cyril de Zoom Écologie qui est à la technique. Et voilà, Zéro Hebdo, qu'on ne présente plus parce qu'il est souvent là avec nous pour faire nos techniques et parler au micro. Bien, alors on va reprendre sur le nucléaire, puisque Patricio voulait... tu es chilien, Patricio, aussi
Oui.
C'est ça et tu es vulcanologue aussi. Tu t'occupes des...
Je fais la sismologie et la vulcanologie.
D'accord.
Et à la base, je suis ingénieur de mines.
Oui.
Et pendant des temps, longtemps, qu'on est intéressé dans ces problèmes dans notre pays. Les problèmes nucléaires se présentent actuellement comme quelque chose d'effet. C'est-à-dire que la mondialisation nous amène que des pays intéressés à produire de l'énergie dans notre pays. Et surtout un pays qui est tellement sismique qui peut provoquer des catastrophes pires que celles de Japon. Pour savoir qu'à chaque jour, il y a 10 ou 12 sismes sensibles qu'on peut sentir par jour. Et des sismes, dans chaque année, ça peut avoir entre 5 et 7 degrés de l'escale Richter, de 4 ou 5 sismes de cette magnitude. Et tous les 4 ans, il y a des sismes qui supèrent les 8 degrés de l'escale Richter. De Richter. Et le dernier sisme, ça a provoqué pas autant de dégâts des victimes humaines, mais si dans de tout ce qui est construction ou même dans la terre même, c'est avec les tsunamis qui a dévasté une grande quantité de la zone qui était habitable ou de la zone qui productive. Bon, pour arriver à ce problème, je voulais aussi parler des problèmes qui provoquent les déchets nucléaires. Les déchets nucléaires, et ça vient de l'histoire, hein, tous les essais nucléaires qui venaient au Pacifique Sud, et ça provoquait un affaiblissement de la couche de la plaque de Nazca. Première chose. Deuxième chose, il y a une grande concentration nucléaire dans cette région, ce qui provoque des mouvements sismiques qui amènent à rentrer dans la plaque continentale, c'est-à-dire que ça bouge tellement de 1 cm ou 8 cm et que c'est énorme.
Quand tu parles de concentration nucléaire, ça veut dire qu'il y a une zone où il y a plusieurs centrales les unes à côté des autres, ou ça veut dire que c'est une grosse centrale qui émet sur, par exemple, sur 20 km, beaucoup de... qui pollue
non,
sur 20 km.
C'est justement les essais nucléaires qui ont été provoqués.
Ah, c'est des essais nucléaires, d'accord.
Pendant des années, les derniers qui étaient pendant la période Chirac, je crois.
Oui, d'accord.
Voilà. Et c'est ça, c'est... Et les déchets nucléaires aussi qui sont lancés au fond de la mer, parce que pas tous les déchets nucléaires sont traités.
Oui, bien sûr.
À la Hague ou ailleurs. Mais aussi, il y a une grande enquête actuellement qui c'est possible qu'ils se fassent jeter dans les volcans. Et alors, c'est la dernière explosion d'un volcan au sud du Chili, le volcan Chaitén. Et les cendres étaient contaminées avec plein de poussières nucléaires, alors, avec beaucoup de concentration de radioactivité.
D'accord.
Et ça aussi, peut-être ça a été en Islande. En Islande, quand le volcan a explosé, il y avait la poussière, et aussi il y avait des concentrations de radioactivité. C'est pour ça que pendant 10 jours, ils ont arrêté les avions de voler par toute l'Europe. Ils nous ont caché la vérité. Pourquoi ils ne disent pas la vérité? Ils disent seulement que la poussière, les cendres, ils peuvent provoquer une catastrophe d'un avion. Mais pas seulement ça, c'est aussi parce qu'il y a de la radioactivité dans l'air.
C'est très bien. Donc, merci beaucoup. Tu habites là-bas ou maintenant tu habites en France?
Maintenant j'habite en France.
Et tu as des nouvelles des gens qui habitent sur place là-bas ou...
Chaque année, je fais 5 mois de... je parcours tout le pays.
D'accord.
Et justement, je concentre l'information de ce qui se passe dans les mines, pas seulement les trucs nucléaires, sinon aussi sur les mines. Et sur la concentration des minéraux qui sont comme uranium, vanadium, etc., et lithium. le Chili concentre un tiers de la des réserves mondiales de lithium.
D'accord.
Alors il y a beaucoup de pays qui sont intéressés au lithium, ainsi comme l'uranium, à tel extrême qu'ils veulent déchirer un lac entier et qui il est dans la région de Gualmapu, du territoire mapuche. Alors ils vont déchirer un lac pour exploiter l'uranium. Alors ça arrive à la folie de.
Est-ce qu'il y a dans votre pays, est-ce qu'il y a une contestation assez forte? Est-ce que les gens se manifestent,
oui,
se révoltent,
oui,
etc.
Oui, 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 justement, oui. Les Mapuches, justement, l'autre fois, ils ont fait une chaîne humaine autour des lacs,
oui,
pour pouvoir protester sur ça. Alors, Areva, c'est le principal exploitant qui va arriver pour exploiter l'uranium. Et entre autres, c'est la signature entre Sarkozy et Piñera, l'actuel président du Chili.
Est-ce qu'ils peuvent se pourvoir en justice par rapport aux problèmes qui leur sont imposés? Est-ce qu'il y a des recours?
Et seulement des recours internationaux. Nous, on a mené ça aux Nations Unies et il y a des Mapuches qui sont venus justement à la Convention de Genève pour les droits de l'homme. Ils ont été à l'UNESCO la semaine dernière pour signer la possibilité de que les lacs Geugeu soient traités comme patrimoine de l'humanité. On verra qu'est-ce qu'on peut faire avec ça.
Mais je pense que c'est justement là le problème, c'est-à-dire qu'il faut pouvoir prouver qu'on est vraiment très important au-dessus de tout le monde, au point d'être patrimoine de l'humanité,
oui,
pour éventuellement arrêter un projet. Quand on parle justement au Niger des mines d'uranium, ben voilà, c'est des zones touareg, donc en fait nous de loin on voit que du désert. Et en fait, il y a des gens qui vivent sur ces territoires, c'est rien que du sable, mais c'est leur lieu de vie. Et donc je pense que effectivement eux, comment ils vont pouvoir prouver qu'ils sont patrimoine de l'humanité et que leur sable vaut de l'or pour eux, leur vie, etc. Enfin, pour eux et pas du point de vue des politiques.
Eh ben, il serait temps, parce qu'il y a eu un documentaire justement sur des Touaregs que j'ai relayé cette année. Et un des Touaregs, et j'ai appris dans ce documentaire que Areva s'était arrogé une partie du territoire Touareg sans problème.
200 concessions ils ont sur.
Et c'est honteux, c'est vraiment. Mais eux, ils n'ont rien reçu en retour, bien sûr.
Et comme une chose quand même, si toutes ces compagnies et autres. On le voit sur le nucléaire, on le voit sur toutes sortes de constructions. En même temps, elles se sont pas imposées toutes seules. C'est là où il faut, je pense aussi, l'intérêt de la discussion aussi pourrait s'élargir un petit peu, puisque on voit bien que si elles ont tout ce pouvoir, c'est que à un moment, il y a des politiques qui leur ont donné certains accords pour le faire. Ça, elles l'ont pas fait complètement seules. Et moi, je pense qu'effectivement, les consultations, la plupart du temps, la population est très très peu consultée. Sur le cas de Notre-Dame-des-Landes, c'est assez flagrant, puisque effectivement, il y a toujours, et derrière ça, il y a toujours cette course au développement, puisque là aussi, on est à la compétition, parce que là, on n'y échappe pas. Et effectivement, il faut le plus grand aéroport de ça, il faut la centrale nucléaire la plus puissante, et tout ça est fait aussi avec l'accord, mais ça peut être parfois des députés, des maires et tout ça, parce que moi je pense qu'il ne faut pas non plus déconnecter certains maires, effectivement, comme par exemple le maire du Chefrenne dans le Cotentin ont d'autres positions, mais la plupart des élus à Notre-Dame-des-Landes, d'ailleurs, sur cette question là les choses ne sont pas si évidentes que ça, parce que publiquement certains élus effectivement disent nous l'aéroport on n'en veut pas, mais après officieusement c'est autre chose, parce que il y a des retombées, on parle de retombées économiques et autres, et effectivement les choses n'arrivent pas comme ils ne s'installent pas comme ça seuls.
Oui, c'est toujours le même problème. Donc moi j'ai peut-être un début de réponse à la question de savoir si pourquoi les gouvernements aident les grands industriels à imposer leur vision à des tribus ou à des populations locales un petit peu éparses et qui est méconnue par le grand public, etc., mondial, c'est qu'effectivement c'est bonnet et blanc bonnet, comme tu disais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il y a les intérêts économiques qui sont en jeu, effectivement, voire des intérêts politiques, parce que on sait que les gouvernements dans les dictatures se font, c'est des fonds. Ça peut être les services secrets, ça peut être n'importe qui place et qui déplace. Et donc tout ça, c'est des problèmes de gros sous contre l'intérêt général, contre la santé publique, parce que c'est effectivement ces problèmes de la santé qui est mis en cause dans cette histoire. Que ce soit l'aéroport, que ce soit le schiste ou que ce soit le nucléaire, c'est des problèmes principalement de santé morale et physique, mais même morale, je veux dire.
Il y a des choses d'ailleurs qui font assez froid dans le dos par rapport à ça, c'est notamment ces pays, souvent dans le Côte Sud, qui sont en dramatique manque d'argent, qui sont gouvernés par des élites corrompues, enfin bref, qui sont évidemment tous démocratiques et qui acceptent contre argent nos déchets. Déchets qui sont ensuite tout simplement mis dans la nature, en pleine nature, quelque part, pas traités, évidemment pas surveillés. Enfin bref, c'est le truc qui est le plus effrayant, c'est que. Ça s'est pratiqué un petit peu en Russie soviétique. évidemment, pendant la guerre froide, où les quelques sous-marins nucléaires qui commençaient par fuiter un petit peu trop étaient entassés dans des ports à pourrir, réacteurs quasiment à ciel ouvert. Et on retrouve ce genre d'idée en Afrique qui est vraiment est effrayante.
Patricio.
Oui, c'est justement. Et quand c'est une situation géopolitique et où il y a des satellites à l'Empire, dans ce cas aux États-Unis, et Obama, bien sûr, avec Piñera, ils ont signé aussi pour l'installation nucléaire au Chili. Mais que les fins ne sont pas seulement économiques ou de donner énergie. Aussi, c'est une région qui actuellement, il y a beaucoup de changements. L'Amérique du Sud, actuellement, on voit que, comme l'Argentine, le Brésil, qui sont des grands pays, il y a des gouvernements gauche ou centre-gauche. Et le gouvernement chilien, c'est extrême droite. Et oui. C'est pour ça que les États-Unis ont choisi le Chili, la Colombie et le Mexique pour faire des installations de tel type, des installations nucléaires. Alors, c'est-à-dire qu'ils veulent toujours contrôler cette région du monde. Et ils peuvent s'échapper, bien sûr. Et actuellement, ce gouvernement, il gouverne avec un 23% de la population qui a voté pour Piñera. Le reste, ils ne veulent plus savoir d'un gouvernement de droite, mais non plus de gouvernement soi-disant de gauche, parce que le dernier gouvernement de Mme Bachelet, c'était catastrophique. Alors, on ne peut pas dire qu'elle pourrait changer les choses, même s'il revient au gouvernement.
Vas-y, Virginie.
Je voulais juste rebondir sur la question des déchets qu'on envoie justement très loin de chez nous. Toutefois, j'en profite pour rappeler qu'en France, il y a quand même le projet d'ensevelir des déchets radioactifs dans le nord de la France, à Burnes. Donc j'en profite pour passer le message, puisque c'est donc en France tout près de chez nous. Il faut quand même peut-être essayer de solidariser pour ceux qui veulent avec ceux qui luttent actuellement contre l'enfouissement de ces déchets, ce qui résoudra pas le problème parce qu'ils vont essayer de les enfouir autre part, etc. Donc en fait on est quand même sans fin avec cette histoire des déchets qu'on n'a pas réglé. Et donc indépendamment de la question de quelles autres énergies, il y a aussi l'idée de ces déchets qui nous touchent du coup aussi en plein fouet, même si on en bazarde un peu partout.
Est-ce que peut-être à ce moment de la discussion, on ne pourrait pas passer le petit son que
je pensais justement qu'on pouvait éventuellement...
Oui, on peut présenter effectivement la gestion de la catastrophe, parce que ça nous intéresse en premier chef. Le son qu'on a récupéré, c'est une interview d'Alain Carignon en 1986. Alain Carignon, il était ministre délégué à l'environnement du premier gouvernement de la cohabitation. Hein, c'était Jacques Chirac, le Premier ministre, souvenez-vous. C'était François Mitterrand, le président de la République. Le 25 avril 1986, le réacteur de Tchernobyl, l'un des réacteurs de Tchernobyl, explosait. Et là, Alain Carignon donc, est interviewé par un journaliste qui n'est plus en activité, c'était sur Antenne 2 à l'époque, c'était Hervé Claude, le journaliste. Ça dure à peu près presque 6 minutes, vous allez entendre ça. Et on est vraiment dans c'est tout au début du mois de mai 1986, et on est dans la pleine période de Tchernobyl où, évidemment, vous le savez, le nuage a évité consciencieusement les frontières de la France. On est bien d'accord que la radioactivité ne s'est pas du tout étendue sur notre territoire. Et la preuve avec Alain Carignon, qui a eu par la suite une brillante carrière politique, on en parlera après, puisqu'il a évidemment été condamné pour diverses choses, qu'on se fera un plaisir de rappeler.
Effectivement, voilà beaucoup de questions. Alors avec nous, en direct de Grenoble, Alain Carignon, vous êtes ministre de l'Environnement. Monsieur Carignon, bonjour.
Bonjour.
Alors, comment expliquez-vous que les Français étaient si mal informés dans cette affaire? Parce que nous, journalistes, nous avons essayé de savoir et on nous a donné des informations fausses.
Et je crois qu'il faudrait d'abord peut-être rappeler des choses très simples. Il y a au fond deux choses. Il y a le service de sûreté nucléaire qui dépend du ministre de l'Industrie et qui concerne le contrôle des machines, qui est un service à la disposition également du public. Et puis, il y a le service de contrôle de la radioactivité, pour simplifier, qui dépend du ministère de la Santé et qui est le service du professeur Pellerin, qui a été souvent mis en cause en matière d'information.
Ça veut dire, monsieur le ministre, que vous occupez de l'environnement, mais ça ne dépend pas de vous, tout ça?
Alors, attendez, par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que si l'information a été mise en cause, jusque-là, le thermomètre, c'est-à-dire l'instrument qui permet de mesurer la radioactivité, ne l'a pas été. Parce qu'en France, il y a sur le territoire 130 thermomètres de mesure de la radioactivité qui mesurent la radioactivité dans l'air, dans l'eau, dans le lait, et qui la mesurent en permanence, c'est-à-dire qu'il y ait Tchernobyl ou qu'il n'y ait pas Tchernobyl. Donc, on a un instrument de mesure qui est considéré comme fiable en France et en Europe. C'est un élément très important parce que ce n'est pas toujours le cas dans les autres pays où il y a, on le voit bien, une certaine cacophonie à l'intérieur même des pays.
Donc, mais pourquoi n'a-t-on pas dit que la radioactivité va augmenter, tout simplement?
Alors déjà, les instruments de mesure ont diffusé tous les jours depuis le 28 avril, tous les jours en fin de soirée, vers minuit, les services du professeur Pellerin ont diffusé les chiffres. Et puis, hier exactement, le professeur Pellerin a pu présenter une carte qui est la première carte coordonnées du taux de radioactivité publié par un pays européen. Parce que, pour la publier, pour des raisons techniques, il faut un certain délai, puisqu'il faut que la radioactivité naturelle ait été prise en compte. Donc, elle a été publiée en France, hier.
Hier, 15 jours après.
Ah non, mais quotidiennement, les chiffres ont été publiés.
Alors, comment expliquez-vous que les Français ne l'ont jamais su?
Ah bah, écoutez, c'est aux médias de répercuter ces chiffres.
C'est nous qui n'avons pas fait notre travail,
tous les jours. Et ils ont été diffusés. Maintenant, je vais ajouter tout de même quelque chose sur ce problème de l'information qui est capital. Il est capital parce que je crois que les Français sont majeurs, ils ont le droit de savoir, ils ont le droit de connaître. Je crois que tout le monde s'accorde à penser, d'ailleurs le reportage vient de le montrer, que les taux tels qu'ils ont été, ils se sont développés, les taux de radioactivité ne sont pas dangereux. Suivant les normes de l'Organisation mondiale de la santé ou suivant les normes d'Euratom, dans les deux cas, les taux tels qu'ils sont déterminés en France ne sont pas dangereux. Mais se pose le problème de l'information, et il faut tirer l'expérience, n'est-ce pas, de ce qui vient de se produire. Je crois que dans tout événement, il faut en tirer la leçon. D'abord parce qu'un tel accident peut se reproduire, il peut se reproduire parce qu'il y a, il faut le dire, 25 centrales à peu près du même type que Tchernobyl en URSS, qu'il y en a dans les pays de l'Est. L'incident peut aussi se reproduire en Europe. Bref, donc il
faut... Alors est-ce qu'on sera mieux informé à l'avenir?
Alors, moi, je propose, puisque nous avons des thermomètres, des instruments de mesure qui sont qualifiés, je propose qu'il y ait une cellule de coordination de l'information qui soit organisée, qui bénéficie des informations de l'industrie et de la santé, et qui nous permette, si un incident de ce type se produisait, d'informer de façon coordonnée les Français avec tous les éléments possibles, car je crois qu'en la matière, surtout s'il y a des mesures de protection à prendre, l'information est un élément capital.
Ce serait une haute autorité de l'information nucléaire, comme le réclament les écologistes, par exemple?
En tout cas, il faut que, je ne sais pas sous quelle égide et sous quelle forme, il faut que cette coordination se fasse, car je crois que nous en avons les moyens en France.
Alors, tout de même, il y a déjà donc une catastrophe à Tchernobyl, il y a des informations qu'on aimerait connaître. Par exemple, est-ce que les produits alimentaires en France ont subi la radioactivité? Est-ce qu'il y a des produits, par exemple, qui ont été surgelés et qui donc garderaient cette radioactivité? Est-ce qu'on va savoir tout ça?
Vous avez les mesures qui ont été diffusées hier prouvent que donc c'est le sud-est, c'est l'Alsace-Lorraine, c'est un peu l'ouest qui ont eu des taux de radioactivité plus élevés et qui sont, je le répète, pour l'instant, je crois que c'est admis par tous, bien en dessous, n'est-ce pas, des taux à partir desquels il y a danger, mais largement en dessous, 5, 10, 100 fois en dessous. Des taux de danger. Donc,
mais alors les Allemands, par exemple, ont pris des mesures. Il suffit de voir en Alsace, par exemple, d'un côté du Rhin, il y a des mesures assez strictes de protection, de prévention. De l'autre côté, rien du tout. Ça vous semble normal?
Vous avez, d'ailleurs, la communauté économique européenne et le reportage qu'on vient de voir le prouve. Maintenant, un certain accord qui doit avoir lieu à l'extérieur de nos frontières. Je crois qu'il sera probablement le plus facile à trouver. Et puis à l'intérieur, car maintenant vont se greffer les intérêts économiques, un peu divergents, des pays européens. Car il peut y avoir là camouflage derrière la sécurité ou la sûreté d'intérêts économiques qu'il nous faut déterminer avec beaucoup de précision. Alors nous, Français, nous prendrons, nous donnerons, il faut que nous puissions diffuser quotidiennement les mesures de contrôle qui sont effectuées en France, qui existent et qui sont fiables.
C'est vrai qu'en France, il y a un lobby pour le nucléaire. La France est un pays du tout nucléaire. Est-ce que vous engagez, monsieur le ministre, à donner vraiment toutes les informations dans ce domaine?
Oui, je souhaite même que cette cellule de coordination de l'information soit placée sous l'égide du ministère de l'Environnement, qui est là pour prévenir et pour protéger.
Merci Alain Carignon, merci de toutes ces explications.
Un bel exercice de langue de bois, vraiment dans les grandes largeurs. On rappelle qu'Alain Carignon, donc peu de temps après, a été ministre de la Communication sous Édouard Balladur, hein, qui était donc Premier ministre. Ça fait peur, effectivement. Et on voit avec quelle constance il évite absolument tous les sujets réellement qui fâchent. Et surtout, en expliquant, et ça c'est une constante dans le langage technocratique qu'on peut entendre régulièrement, en s'extasiant sur les moyens techniques qui sont déployés pour pouvoir gérer la catastrophe. On a eu ça beaucoup avec la catastrophe de l'Erika, où Total avait financé un film qui expliquait comment on faisait pour, en quelque sorte, dépolluer le site. Récupérer ce qui pouvait être récupérable, et Total, sur un film qui durait 40 minutes, qui n'était pas autre chose qu'un film de propagande, expliquait que voilà, il mettait en place un système logistique extraordinaire, et qu'avec 17 hélicoptères, 17 stations de pompage, enfin bref, il y avait une espèce de joie et d'émerveillement devant la technicité. On rappelle quand même juste qu'Alain Carignon ensuite a été condamné à 5 ans de prison, 5 ans d'inéligibilité et à 400 000 francs d'amende à l'époque, dans les années 90, pour des histoires de malversation et d'abus de...
D'abus
de confiance et d'abus de pouvoir, tout simplement.
Il y avait une histoire d'eau, je crois.
Voilà, exactement, avec Lionel Desos. Enfin, on pourrait revenir, mais enfin, c'est pas le sujet. Enfin, moi... Mais ce qui est intéressant avec Alain Carignon, c'est que c'est l'homme politique français qui a passé le plus de temps en prison. Oui. Hein, puisqu'il a fait ses 4 années, il a été condamné à 5 ans, dont un avec sursis, il a fait ses 4 ans de prison. Et actuellement, jusqu'au mois de mai, il était conseiller officieux de Nicolas Sarkozy et de Brice Hortefeux. Voilà.
Alors, moi, ce que j'ai beaucoup aimé dans ce. Juste dire deux mots sur ce qu'on a entendu. J'ai beaucoup aimé, par contre j'ai un doute, hein, je ne sais pas trop ce que c'est, que l'information nucléaire, parce qu'il y a peut-être aussi des informations non nucléaires, parce qu'il a dit information nucléaire.
C'est un vrai débat.
C'est un vrai débat.
C'est une info qui explose, voilà. On peut dire. Mais enfin, c'est effectivement, comme tu disais, c'est un grand spécialiste de la langue de bois, mais comme tous les politiques, et je crois que vous êtes un petit peu assez confiant. Moi, je pense que les politiques n'ont même plus de pouvoir par rapport aux gros groupes.
Jenny, tu voulais dire.
Hyper pas confiant. on fait pas du tout confiance. Je pense que c'est précisément ce qu'on est en train de dénoncer depuis tout à l'heure. C'est-à-dire que gauche, droite, voilà, Europe ou autre continent, voilà, c'est lié à un système mondial qui est pas que économique, qui est politique, où effectivement les intérêts sont politiques, c'est se maintenir au pouvoir. Et permettre à ceux qui vont faire de l'argent de te maintenir au pouvoir et toi au pouvoir de leur permettre de se faire de l'argent. Enfin ouais, c'est un peu ce qu'on dénonce. Et en même temps, l'idée c'est aussi de donner des arguments aux gens pour que justement on soit pas dans l'inertie où c'est où la sortie. Enfin l'idée c'est.
C'est aussi une spécialité française qui consiste à dire surtout ne vous inquiétez pas, tout va bien. Vraiment, on gère la situation. D'ailleurs, il n'y a même pas de situation. On est là, tout est bon. Nos centrales sont sûres, rassurez-vous, tout va très très bien. C'est un incident, mais c'est très léger. Et c'est d'ailleurs assez effrayant de voir que finalement, il y a eu des gouvernements, alors on revient sur Tchernobyl, qui ont décidé quand même de prendre les devants en distribuant par exemple des pastilles d'iode à la population. Ça s'est fait en Suisse, ça s'est fait en Allemagne, ça s'est fait en Autriche, je cherchais le mot. Ça s'est très peu fait au Japon.
Oui.
Alors quand même 25 ans après, ça, on n'a pas tiré les leçons. Et en France, ça ne s'est pas fait, c'est clair. Il ne fallait pas
affaiblir
les populations, donc pas question de distribuer des pastilles d'iode, parce que ça serait reconnaître qu'il y a un problème. Et on en est vraiment là. Quoi.
Avec les pastilles d'iode, il y a un souci, parce qu'ils n'ont pas des stocks énormes. Les seuls stocks qu'ils ont, voilà, c'est des anciens stocks et elles ne sont plus du tout valides. Enfin,
ce qui est intéressant aussi, est de remarquer le progrès de la communication qu'il y a eu entre Tchernobyl et Fukushima. Sur Fukushima, on n'a tout simplement pas parlé de ce qui était en train de se passer. Tous les journalistes, le monde des médias français, étaient focalisés sur New York, sur le Sofitel de New York et sur les prouesses de M. Strauss-Kahn. Et ils nous ont bassinés pendant un mois et demi, deux mois, sur cette histoire, surtout pour éviter de parler de ce qui s'est passé de l'autre côté, justement, du côté du Japon. Et il y a plein de médias qui avaient plein d'argent pour envoyer des journalistes sur place qui attendaient les déclarations de M. le procureur de New York, mais pas un journaliste pour aller du côté de, du Japon, de Fukushima, pour voir sur place ce qui se passait. Et donc, ça a permis tout simplement d'éviter. Il y a eu un bruit énorme médiatique sur une autre question à côté pour divertir, comme on disait, comme ça rappelait un peu la définition que Castoriadis donnait des nouveaux philosophes et de M. Bernard-Henri Lévy, les divertisseurs.
Les divertisseurs.
Ils parlent à côté. Hein, et c'était exactement un cas d'école. On a parlé à côté. Non seulement, mais on continue. Parce que l'accident de Fukushima n'est toujours pas terminé. C'est ça la question. Et on continue à faire semblant que le problème n'existe pas. La radioactivité qui a été rejetée par Fukushima est supérieure à celle rejetée par Tchernobyl. Seulement, ça s'est fait de façon échelonnée sur plus d'un an maintenant. Mais ça continue.
On peut même rajouter que l'accident de Tchernobyl n'est pas terminé non plus. Parce que le réacteur, il est encore là, le réacteur fondu, le cœur, il est encore là, il est recouvert de béton, de graphite, ils sont en train de dépenser des là on est plus en millions d'euros, on est en milliards d'euros, donc tout cet argent pour construire une espèce de caisson de confinement en différentes matières qui tiendra, enfin qui a déjà été construit, ils sont en train d'en faire un autre. Et effectivement, là, on sort complètement de la notion humaine du temps pour rentrer. Alors je retombe sur mes pattes de science-fictionneux, mais sur des notions de temps qui sont littéralement inconcevables. Ils travaillent en Scandinavie actuellement sur une espèce de chambre construite à quelques centaines de mètres sous terre pour stocker justement des déchets extrêmement radioactifs qui sont à des degrés de radioactivité tels qu'ils doivent être confinés pendant plusieurs centaines de milliers d'années. C'est-à-dire quand même une bonne partie de l'histoire humaine, hein, voire plus que tout, dans des conditions a priori sûres. Et c'est un intéressant cas d'école et, disons, projet pour les étudiants en graphisme, parce qu'ils sont en train d'essayer de travailler sur des icônes qu'on peindrait sur les murs devant ce site pour empêcher les gens d'y entrer plus tard, parce que dans 100 000 ans, on ne sait pas du tout comment seront les gens, on ne sait pas du tout ce qui restera de la société.
Non, mais
et donc, il faudrait qu'on ait des icônes suffisamment effrayantes. Et mais ils bossent sérieusement dessus. Enfin,
certains, c'est des millions d'années. Perdre que la moitié de la radioactivité. C'est-à-dire qu'il faudra attendre encore 100 millions d'années pour perdre la totalité. Voilà.
Oui, donc ce qui est intéressant est de ne pas oublier, par exemple, que le centre d'enfouissement de Bure porte la signature de notre ancienne ministre de l'écologie, Madame Voynet,
oui.
Qui restera dans l'histoire et dans la poste
dans les annales, oui.
Pendant des millénaires, comme celle qui a signé, comme celle qui a créé le centre d'enfouissement de Bure.
Oui, d'autant qu'à l'époque, il y avait une grande discussion sur le fait s'il fallait enfouir ou pas enfuir les déchets. Hein, donc, c'est intéressant de savoir ça quand même. Moi, j'ai pas la réponse, mais bon, maintenant. On va peut-être juste arrêter. À moins que tu veuilles dire un dernier mot sur
J'avais juste. J'avais juste envie de mettre en avant le fait que si les médias sont capables de pouvoir oublier Fukushima, c'est que les gens en France relèguent cette question-là à l'écologie. Et donc je pense que en France, les gens sont pas très disposés à parler de questions qui sont des questions de société, mais qui effectivement se font par l'entrée de l'écologie. Et donc là, je pense que le petit problème qu'on rencontre, c'est quand même de laisser ces questions-là aux écologistes, ou de se référer à des associations comme Greenpeace, etc. Et donc, je pense que c'est important, justement. Enfin, moi, ce qui m'intéresse dans cette émission, c'est précisément que sans être expert et sans être écolo ou quoi que ce soit, on pense que c'est des questions qui nous concernent tous et qu'on doit pouvoir en débattre et justement forcer les médias éventuellement en justement imposant ces thématiques-là aussi. Hein. C'est nous aussi qui pouvons faire des choses en nous mobilisant.
En tout cas, les politiques continuent dans le nucléaire. En tout cas, ceux qui le font sont des criminels. Et donc, les criminels, on les met normalement en prison. Il faut libérer les prisons pour ceux qui ont commis des petites fautes ou voire... et mettre ces gens-là à leur place. Je veux dire, c'est complètement criminel que de poursuivre... pour continuer une énergie qui est en fait qui détruit la planète, la faune, la flore, l'humain, etc., etc. Donc on va peut-être s'arrêter sur le nucléaire parce qu'il y a encore d'autres sujets à traiter. Une petite pause musicale, voilà. Merci, Joël.
On ne mesurait pas la chance et le bonheur que nous avions de voir passer de gros avions sur nos têtes sans manigance. S'envoyer en l'air ne me gêne, sauf que tous ces gars-là, ils prônent afin d'atterrir une zone très plate plutôt qu'hérosène. T'auras pas la terre, elle est nécessaire. Son état fertile ne tient qu'à un fil. Monsieur, dans ta main, du louve pantin. T'es sur ton avion, c'est pas du carton. Tous ces gros oiseaux sans plumage, au chant triste et assourdissant, observent de là-haut les champs où pondre leurs œufs sans dommage. Ils ont piqué comme à la guerre sur nos nids douillets et du coup on les voit comme des coucous violés d'où l'espace populaire. T'auras pas la terre, elle est nécessaire. Son état fertile ne tient qu'à un fil. Monsieur, dans ta main, tu nous veux pantin. T'es sur ton avion, c'est pas du carton. Pour inventer l'avenir du monde, on peut consulter des experts. Mais on aurait des futurs pères. Sans doute la terre serait plus ronde. Tout ça pour tirer les ficelles du transit international. Mais le transit intestinal est une fonction plus essentielle. T'auras pas la terre, elle est nécessaire. Son état fertile ne tient qu'à un fil. Monsieur, dans ta main, tu nous veux pantin. T'es sûr que ton avion, c'est pas du carton. Mais à la guerre économique, c'est comme avec celle des canons. C'est nous qui sommes toujours au front, les sans-grades de la République. À force de courber les chines, le souffle est trop court pour chanter. Mais le rythme est là, écoutez vos cœurs battre dans vos poitrines. T'auras pas la terre, elle est nécessaire. Son état fertile ne tient qu'à un fil. Monsieur, dans ta main, du nouveau pantin. T'es sur ton avion, c'est pas du carton. Vigneux et Treillières, Grand Champ des Fontaines, Notre-Dame-des-Landes, faut qu'on vous entende. Monsieur, dans ma main, j'ai celle du voisin, qui elle-même taquine celle de la voisine. La 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 la.
Merci, merci à tous d'avoir fait cette émission. Merci, chers auditeurs, de l'avoir entendu. Cette émission se termine. C'est à la prochaine fois. Ciao.
La lucha sigue.
S'ils vous amochent, vous les amochez. S'ils vous tuent, vous vous relevez.
Microclimat. Microclimat.
Du 7 au 12 décembre 2015 sur Fréquence Paris Pluriel.
Conférences, débats, reportages, interviews.
Le climat prend le micro.
Pour suivre les mobilisations autour du climat à Paris et partout ailleurs. Microclimat. Une semaine de lutte pour le climat sur FPP 106.3 FM et RFPP.net. Le contre-sommet sur les ondes.
S'ils vous amochent, vous les amochez. S'ils vous tuent, vous vous relevez.